Fréquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
L'art sensible du montage. Bonjour à tous et toutes. Très heureux de vous retrouver en direct des studios de Fréquence Protestante. Nous allons aujourd'hui évoquer le travail du montage de films. Travail discret, pas nécessairement invisible, même si l'on est profane en la matière. Car l'enchaînement des plans, les raccords, le découpage des séquences et au fond la narration relèvent tous de l'action du monteur. Le montage se voit en même temps que le film se montre. Ils sont inséparables, comme peuvent être inséparables un réalisateur et son monteur attitré. On ne saurait penser à Martin Scorsese sans évoquer Thelma Schoonmaker qui l'accompagne depuis près de 50 ans. Reste que cette figure du monteur est difficile à qualifier. Artisan, créateur, technicien ou un peu tout à la fois. Il est en tout cas un des rouages essentiels de la vie d'un film. Sauf qu'il n'est pas sur le tournage et qu'il fait tout dans l'enfermement de la salle de montage qui tient en même temps de la cellule monacale et de l'atelier d'artiste. Il a aussi son vocabulaire mystérieux, les rushs. C'est l'ensemble des plans tournés encore à sélectionner. L'ours, c'est le bout à bout mal dégrossi des séquences ou le plan de coupe qui vient s'insérer au milieu d'une même prise. Peut-être de nouveaux mots pourraient-ils d'ailleurs les remplacer. Le plan de coupe deviendrait ainsi la solution de continuité. Le champ contre champ deviendrait le balai des regards. C'est en tout cas ce que propose Emmanuelle Léger, monteuse de son état et auteur d'un livre sensible et poétique sur cette figure méconnue du monteur, sur sa subjectivité et sur les affres de la co-création dans lesquelles il est plongé. Son ouvrage s'intitule « Plus long le chat dans la brume, journal d'une monteuse ». Il est sorti cette année aux éditions Adespot. Il est illustré par Mathias Maffre et il est préfacé par Avril Dunoyer. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'auteur et sa préfacière. Bonjour Emmanuelle Léger.
Bonjour.
Emmanuelle Léger, vous êtes monteuse pour le cinéma et la télévision et auteur du blog « Journal d'une monteuse ». Bonjour Avril Dunoyer.
Bonjour.
Avril Dunoyer, vous êtes photographe et auteur de nombreux articles sur le cinéma. Première question pour vous, Emmanuelle Léger. Comment vous est venue l'idée de ce livre sur votre travail ?
Alors, ce livre fait suite au blog que j'ai ouvert et que j'ai tenu pendant 3 ans. Mon blog, donc, qui s'appelle « Journal d'une monteuse ». Et j'ai ouvert ce blog parce que, d'abord, je suis passionnée par mon métier, donc le montage. Et moi-même, avant de devenir monteuse, j'étais jamais rentrée dans une salle de montage. Et j'avais envie de faire découvrir tout ce qui s'y passe, en fait, dans la salle de montage. C'est quand même un lieu assez fermé, assez secret. Et pourtant, on y passe sur un long métrage, par exemple, de cinéma, entre 12 à 20 semaines. Donc, c'est un temps assez long, partagé avec le réalisateur et le film. Et donc, j'avais envie de dévoiler à tous les cinéphiles, enfin, toute personne qui s'intéresse au cinéma, le travail qu'on fait en tant que monteur avec le réalisateur. Donc, j'ai ouvert ce blog de manière très spontanée, on va dire. Et je l'ai tenu pendant trois ans. Donc, j'ai écrit un certain nombre de billets, souvent après le travail, en fait, sur des découvertes que je faisais ou qui me permettaient aussi d'archiver pour moi-même aussi
d'avoir une réflexivité se souvenir de ce que vous aviez fait.
Exactement. Donc c'est sous la forme d'un journal, en fait, comme un journal de bord. Donc ça couvre en tout, je crois, 7 films.
Et plusieurs années, hein. Dans le livre, les chroniques s'étalent sur plusieurs années.
Voilà, puis donc après ce travail-là, donc j'ai découvert aussi que j'aimais beaucoup écrire, ce qui m'a pas surpris, puisque le montage, c'est déjà de l'écriture. Mais l'écriture avec les mots, disons, m'a vraiment beaucoup plu. Donc j'ai tenu un autre journal que je n'ai pas publié en ligne, sur le montage d'un long métrage, où là, j'ai essayé de travailler un peu mes récits d'une autre manière. Et donc, à ce moment-là, j'avais l'idée du livre déjà. Et après, j'ai composé le livre à partir de citations de monteurs et de réalisateurs, d'une sélection de mes textes que j'ai retravaillés, de ce journal de bord que je n'avais jamais publié. Et j'ai eu tout de suite envie qu'il y ait des dessins, parce que, pour moi, l'image, c'est très important. Donc, je voulais des illustrations. Donc, j'ai travaillé avec Mathias. Et puis, en tirant le fil de tout ça, en construisant tout ce récit, donc en collant les textes les uns après les autres, en tissant mon récit, il y a aussi des poèmes qui sont venus, donc il y a des petits des haïkus sur le travail du monteur.
Avril Dunoyer, vous avez préfacé l'ouvrage d'Emmanuelle Léger. Comment vous est venue l'envie ou le désir de préfacer ce livre ?
Déjà, elle me l'a proposé, j'étais très flattée. Et je connais le travail d'Emmanuel depuis longtemps. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour sa sensibilité très particulière, son rapport très bienveillant et très ludique au travail. Elle n'est pas du tout dans le travail comme labeur, au forceps, où on est perdu, où on ne sait pas, où on doit arracher le sens à la forme. Elle est dans un rapport extrêmement intuitif au cinéma, et elle invente au fil de la forme. Ce qui est très rare en France, puisqu'en France, on a l'habitude de procéder par étapes et de réaliser notamment ce dont vous parliez tout à l'heure, qui est un ours, forme grossière du film dont elle se défie. D'ailleurs, elle s'en moque un petit peu gentiment dans le livre. Elle dit on est face à un gros ours mal léché. Je crois que ça n'intéresse pas beaucoup d'être face à cette forme grossière et un petit peu plaquée sur le scénario d'origine. Elle va chercher le film dans le montage, elle va chercher à réinventer un film qu'on ne connaît pas, qui est complètement mystérieux et donc qui se dévoile peu à peu au fil du montage. Donc j'avais envie d'introduire son travail et de mettre en valeur ce document comme tout à fait exceptionnel, puisqu'il lève le voile sur un pan méconnu de la création filmique, le montage, très obscur, dont on ne sait pas grand-chose. Et on a assez peu de documents finalement sur ce temps-là de travail du film. J'ai pensé en la lisant au film de Marcel Hanoun, L'automne, qui est un film de fiction, mais où la caméra est entièrement située pour toute la durée du film à la place de la table de montage. Et donc, on voit le monteur au travail. C'est extrêmement rare. J'ai pensé aussi au travail de Pedro Costa sur Straub et Huillet. Il a filmé le troisième montage de leur film Sicilia.
On entendra
qui est sorti en 1999. On présentera un extrait tout à l'heure. Et c'est une ouverture aussi sur la salle de montage qu'on a très peu. Donc j'étais très contente d'introduire cet ouvrage.
Je voudrais qu'on reste sur la question du sensible et qu'on écoute la voix du réalisateur Robert Bresson.
Je préférerais qu'on sente un film avant de le comprendre. C'est-à-dire que les sens interviennent avant l'intelligence.
Il faut garder le mystère, nous vivons dans le mystère, il faut que ce mystère soit sur l'écran. Il faut toujours que l'effet des choses vienne avant leur cause, comme il arrive dans la vie.
Emmanuel Léger, quelques mots sur ce que dit Robert Bresson ou sur votre propre expérience en regard de ce qui a pu être dit ?
Oui, alors moi j'aime beaucoup cette première phrase où il parle de recevoir le film par les sens. C'est sûr qu'on fait du cinéma beaucoup pour... on va chercher les émotions, bien sûr. Et moi, dans le travail, c'est ce qui me guide aussi beaucoup, ma subjectivité, ce que je peux ressentir. Donc, nous, les monteurs, enfin, le monteur, on est le premier spectateur, en fait, des rushs, puisqu'on les reçoit, on les voit à la toute première place. Et on a beaucoup de rushs. Hein. Pour un film, on peut avoir entre 20 heures et 120 heures de rush. Donc, ça représente vraiment une masse énorme.
Il faut vraiment le dire aux auditeurs, ça. C'est-à-dire, quand les plans arrivent du tournage, c'est une masse énorme pour ensuite un film qui sera beaucoup plus court en durée.
Ben oui, bien sûr. Alors après, il y a deux cas de figure. Soit on voit les rushs, souvent en fiction, on monte pendant qu'il y a le film est en train de se tourner. Donc on les reçoit de manière morcelée, très fragmentée, dans un ordre complètement différent de celui du scénario. Et on peut à ce moment-là avoir un dialogue avec le réalisateur qui est en train de tourner pour donner des indications aussi sur ce qu'on perçoit, ce qui pourrait éventuellement manquer, ce qui est très réussi. Enfin, donc c'est à ce moment-là que déjà peut se tisser la relation de manière très, très forte avec le réalisateur. Et dans le cas du documentaire, on est plutôt face à une matière après tournage. Donc là, il y en a beaucoup aussi. Donc, comme je disais, ça peut, oui, une centaine d'heures de rush. Et on va passer beaucoup de temps à les regarder. Les regarder avec le réalisateur, à se parler. C'est un temps aussi où on peut échanger beaucoup sur la matière pour comprendre le film que veut faire le réalisateur ou la réalisatrice et comprendre les rushs. Et c'est un moment très, très intense, en fait. Moi, je raconte dans le livre que c'est un moment souvent où je suis très habitée par le sujet du film, par les personnages. Il peut m'arriver d'en rêver la nuit. Enfin, donc c'est tout un moment où le film va se construire plus ou moins dans ma tête, même si c'est encore très, très flou. Et où je cherche à comprendre les intentions donc de la réalisatrice, et je me sers beaucoup donc voilà de mes sensations en fait au niveau du dérushage, des moments où je m'ennuie, où je décroche, les moments au contraire qui me portent beaucoup d'intérêt. Il y a aussi quelque chose qui est très physique dans le montage, c'est le rythme, de sentir le bon moment où on va couper le plan, le moment où on va l'attaquer. Tout ça, c'est quelque chose pour moi qui est physiologique, en fait, enfin, que je ressens corporellement. Et après, évidemment, je vais analyser, réfléchir, discuter, échanger et construire avec, plus avec ma tête. Mais dans un premier temps, disons, il y a vraiment une approche physique.
Oui, presque une intériorisation du film. Avril Dunoyer, sur la voix de Robert Bresson ou le propos de Robert Bresson sur le montage.
Il y aurait énormément à dire, mais effectivement, l'approche bressonienne est très, très importante pour Emmanuel G. Elle en parle beaucoup dans son ouvrage, et elle parle beaucoup de ce fameux mystère, cette émotion qui doit naître, cette présence unique que le film va pouvoir incarner à partir du moment où on accepte de couper, d'enlever ce qui est superflu. Ça se dégrossit petit à petit. Elle en parle très bien. Je peux lire par exemple un extrait, page 149. Délester le film de son poids superflu, me voilà qui jette par-dessus bord ce qui pesait, parfois un plan, parfois une séquence. Plouf ! J'enlève pour voir, j'enlève pour respirer. Ça, c'est très important. Le réalisateur a beaucoup de mal à couper. Il tient à chaque plan comme à son enfant. Et le monteur, au contraire, est là pour permettre au film de naître en enlevant peu à peu toutes ces strates, toutes ces couches. C'est très précisément ce que disait Bresson. Il disait il faut couper pour pouvoir voir, il faut montrer un détail, un petit bout, pour voir ce tout inatteignable, indicible, beaucoup trop immense pour le mettre dans l'économie d'un film. Donc plus on coupe, plus on atteint ce noyau dur, cette présence qui peu à peu, à force de coupe, se donne. Emmanuel G. écrit à ce propos, « Dans l'acte de la coupe, il y a en positif ce que le fait d'enlever fait apparaître. Tout ce que j'enlève met en valeur ce que je laisse. » Le point de vue se fabrique alors dans les absences et les ellipses. Bresson aurait pu écrire ça dans ses notes sur le cinématographe. Elle écrit « La frustration devient alors structurante. Le fait de rester sur ma fin, provoque ma satiété. »
Emmanuel Léger, on parlait de l'activité de montage comme activité sensorielle. Vous dites dans votre ouvrage que parfois vous montez pas seulement avec l'image, mais vous montez au son. Vous montez à l'oreille, vous montez avec la musique. Donc il y a effectivement des couches possibles de montage. On peut monter aux images et on peut monter avec le son. Ça fait partie du même mouvement de sensorialité de ce travail.
Oui, bien sûr. Hein. Pour moi, il n'y a pas de. D'abord, c'est assez indissociable. Hein. L'image, le son. Alors, on peut s'amuser à les dissocier, bien sûr, mais à la base, tout ça fait partie du matériel que j'ai. Donc, oui, ça m'arrive de construire des séquences, de démarrer la construction d'une séquence par le son. Ça, bien sûr, oui.
Et la musique aussi, c'est-à-dire le son des dialogues, mais la musique qui ferait une espèce de continuité, ou c'est la musique diégétique, c'est-à-dire la musique du film, ou c'est une musique
Moi j'aime beaucoup les films où la musique a été filmée, c'est-à-dire où elle est intégrée à la mise en scène. Je trouve que c'est toujours très 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 chouette de travailler avec une musique qui est intégrée au récit du film. Et puis après, bon, bah, y a le travail de la musique aussi qu'on va travailler avec un compositeur. Donc là aussi, il y a des liens qui se tissent entre le monteur et le compositeur. Évidemment, le réalisateur, mais on travaille dans un aller-retour avec le compositeur.
Voilà. Avril Dunoyer parlait du travail de coupe, et vous avez un passage poétique assez croustillant, avec tout un vocabulaire de la coupe, du couperet, de la découpe, avec l'idée que le monteur est presque un exécuteur avec sa guillotine. Vous voulez peut-être nous en lire un extrait, c'est dans votre ouvrage?
Oui, alors je me lance. Alors.
Allez-y.
Je coupe, j'effile, je hache, je tranche, j'élague, je dégraisse, j'incise, j'opère, j'épointe, j'émince, je dissèque, je sépare, je segmente, je dégrossis, je cisèle, j'aiguise, j'extirpe, je charcute, je taillade, je découpe, j'entaille, j'efface, je laboure, je rogne, je scinde, je morcelle, je tempère.
Je voulais qu'on entende ce rythme-là. Avril Dunoyer, vous écrivez dans votre préface « Lorsqu'une séquence est finie, elle chante », formule que vous empruntez à Alix Cléo-Roubaud. L'idée, c'est l'idée que à un moment, dans le montage, les planètes s'alignent et que la séquence trouve sa vie, ou qu'on atteint quelque chose de pur ou d'artistique, quelque chose qui marche à un moment. C'est ça, si on veut expliciter la formule.
Apparemment, c'est tout à fait mystérieux, ce moment où la séquence est là, La séquence est sous nos yeux, elle se donne. Tous les possibles se sont tus pour un seul élu qui, voilà, qui sera la forme finie du film. Cette petite musique de la séquence qui chante une fois terminée, je pense qu'Emmanuel Gel l'a fait très bien entendre, puisqu'elle n'est pas dans une approche qui serait celle du manuel scolaire. Elle n'est pas non plus dans le récit un peu neutre et objectif du témoignage. Elle fait beaucoup appel au vocabulaire de la sensibilité, disant ça y est, je le sens, c'est là, ça vient presque, je l'ai presque, je le tiens, c'est reparti, ça revient, etc. Donc c'est des mots très simples, mais qui nous font entendre un petit peu à nous, profanes, cette petite musique particulière du montage. Après, le film n'est jamais achevé, elle le dit dans son ouvrage. Le film, peut-on dire que le film est terminé ? Quand est-ce que ça se décide ? Est-ce que c'est le producteur ? Est-ce que c'est le réalisateur ? Est-ce que c'est le monteur qui a ce dernier mot ? Tout reste encore ouvert. À partir du moment où on remet le film sur le métier, il peut être retravaillé à l'infini. Et elle parle aussi de cette difficulté parfois à entendre tous la même musique, producteur, réalisateur, monteur. Et elle évoque un petit peu aussi cette dissension, parfois des points de vue, où l'un ou l'autre est amené à trancher. Voilà, c'est une musique qui peut être parfois entendue que d'un seul.
Ouais, et parfois de celui qui a monté, mais c'est vrai qu'il faut tous se mettre d'accord. Emmanuel Léger, vous dites qu'un bon montage ne doit pas être nécessairement invisible. Enfin, vous dites je n'aime pas les montages lisses. Donc il faut qu'on voit le montage sans que ce soit accidenté, mais il faut que voilà qu'on soit pas dans quelque chose de trop lisse ou de trop fluide, mais que le montage travaille le film aussi à sa manière.
Alors,
on peut le formuler comme ça ?
Je n'ai pas de théorie, j'ai aucune théorie. Je crois que ça dépend vraiment des films. Là, en l'occurrence, ça doit être un texte que j'ai écrit après avoir vu un film de Chaplin, où je disais que j'avais vraiment apprécié voir les colures. Voilà, j'avais trouvé ça vraiment chouette et que maintenant, c'est quelque chose que je voyais de moins en moins. Enfin, que j'avais l'impression qu'on recherchait beaucoup un film très, très fluide, très lisse et que ça m'avait interpellée. Donc, c'est de ça dont je parlais. Après, ça dépend vraiment. Enfin, voilà, non, je dirais pas qu'il faut que le montage se voit ni qu'il ne se voit pas. Je crois que chaque film doit trouver sa forme et qu'on doit, que c'est à nous aussi d'aller la chercher. Voilà, je dis souvent qu'on est trois dans la salle de montage. Il y a le réalisateur, le monteur, et il y a le film. Et c'est un dialogue. Enfin, c'est toute une construction comme ça, en dialogue à trois, et petit à petit, le film prend forme.
Vous dites, Emmanuel Léger, que la question du raccord ou même la question du faux raccord est une question sans intérêt, est une question très secondaire. Et c'est vrai qu'on voit se développer sur Internet des sites qui vont traquer les faux raccords, comme si ça bloquait toute continuité, comme si c'était une erreur gravissime d'avoir un faux raccord, c'est-à-dire un problème de regard, un plan qui paraît bizarrement monté par rapport au plan précédent. C'est vrai, après tout, c'est très secondaire, cette question-là. Il peut y avoir un faux raccord dans un film. Le terme même de faux raccord pose problème, c'est un raccord.
Oui, alors ça, c'est assez complexe. C'est-à-dire que... comment dire ? Ça dépend ce qu'on entend par faux raccord, mais un faux raccord vraiment d'objet... Enfin, disons que dans la salle de montage, on se pose souvent la question de si le raccord n'est pas parfait, à partir de quel moment on l'accepte ou à partir de quel moment il devient un problème. C'est plutôt cette question-là à laquelle on est confronté. Et c'est à nous de savoir quand est-ce qu'on valide un raccord qui ne serait objectivement pas parfait parce qu'il y a un petit défaut de calage, de geste.
Ouais, dans un mouvement, par
voilà,
exemple.
Ou d'objet, ou d'écharpe qui n'est pas mise pareil, etc. Et donc, il faut apprécier ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut le laisser ou pas ? Alors bon, moi, je crois que tant que l'émotion est très, très forte dans le plan, c'est plus important qu'un détail d'écharpe, voilà, en gros, ce que je pourrais dire. Après, c'est pas qu'on s'en fiche des raccords, enfin, je peux pas dire ça non plus, c'est le cœur de
central.
Mon travail, oui. Mais c'est vrai que, enfin, moi, je vais toujours, je trouve que c'est l'émotion qui prime, et que, alors, c'est vrai aussi pour des défauts techniques, parfois, il y a un petit recadrage ou quelque chose qui, on pourrait dire, n'est pas parfait dans la maîtrise technique du plan. Et si ce qui se passe à l'écran est très fort, si ce qu'incarne le comédien nous embarque dans quelque chose de l'ordre de l'émotion, ce petit détail, personne ne le verra, en fait. Et nous, à notre place, on doit apprécier ça. C'est-à-dire, voyez ce que je...
Cesser d'être le professionnel qui va traquer le problème et dire si le film est puissant à ce moment-là, je laisse filer ce raccord-là.
Oui,
absolument. On va écouter un dialogue en salle de montage entre les réalisateurs. Ils tournaient ensemble, hein, Jean-Marie Straub et Daniel Huillet.
À un moment où il y a un sourire qui monte dans ses yeux, c'est très difficile.
Si on peut le garder, c'est mieux. Oh! Oh, on a vu! Mais, excusez-moi, si vous voulez découvrir ce sourire un peu mieux, il faut repartir du tchak. Vraiment, allez, faites-le pour moi, s'il vous plaît. Bon. Là.
Non, non, commencez pas.
Oh, la mer, hein?
Il n'y a pas de là.
Non, c'est sourire.
Oui, non.
Allez, maman. Quand vous aurez fini
le
travail de finesse, là, vous découvrirez qu'il y a un bruit qui dont vous devez tenir.
Ça y est.
Ouais. Oh, la merde.
Vous voyez, là, j'ai rien vu à cause de vous. Quand vous comprendrez jamais que quand on s'est concentré, si quelqu'un vous parle, c'est foutu, il faut recommencer à zéro. Ça, c'est quand même terrible. Depuis le temps qu'on monte des films ensemble, que vous ne soyez pas capable de cette discipline-là.
La valeur de l'homme, l'art sensible du montage. Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Léger et d'Avril Dunoyer. Avril Dunoyer, un mot sur ce qu'on vient d'entendre, d'où
oui,
vient cet extrait et ce qu'il dit.
Pour préparer cette émission, j'ai revu le film de Pedro Costa, Ougi, votre sourire enfoui, qui montre Straub et Huillet au travail sur le montage, le troisième montage de leur film Sicilia, qui est sorti en 1999. Costa sort son film en 2003. Et c'est un document absolument unique sur la façon dont on monte un film. C'est très drôle. On voit les deux comparses s'écharper très violemment sur des séquences parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le point de montage. Et c'est aussi une, comme disait Pedro Costa, c'est une comédie de remontage. C'est-à-dire, les deux personnages, enfin, deviennent des personnages. Les deux cinéastes deviennent vraiment comme des personnages de fiction. Et on suit ce suspense, vont-ils réussir à terminer leur montage. Donc je trouvais que c'était un document intéressant pour nous aujourd'hui, pour donner comme ça un petit témoignage, un petit document sur la façon dont ça peut se passer dans une salle de montage. On entend les bruits de la pellicule qui défile, etc. On entend ce vocabulaire hyper technique, faut repartir du tchak. Bon, le tchak, c'est le point de... Voilà, le clap,
ouais, le
en
clap,
fait, il parle
le clap,
du clap.
Le début de plan.
Voilà, et qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher? Ils sont en train de chercher ce fameux sourire qui donne son titre au film de Pedro Costa, où gît votre sourire enfoui. C'est-à-dire qu'il y a un sourire presque invisible sur le visage d'un personnage et tous les deux, Straub et lui, veulent absolument qu'on le voit. Seulement pour le montrer, où est-ce qu'il faut monter? Est-ce qu'il faut monter juste avant le sourire, sur le sourire ou bien avant le sourire pour qu'il ait temps de naître à l'écran? Là, on est précisément dans un dilemme de montage, dans un point de vue sur le montage où les deux s'opposent. Huillet veut monter sur le sourire, Straub défend de monter un petit peu avant pour qu'on puisse le voir naître. Et on voit bien dans cette dispute la notion de raccord comme ce qui va permettre à la chose d'exister. Et on voit bien comment ça se joue à quelques photogrammes près et que c'est très important pour l'économie globale du film. Voilà. Bon, quant à la dispute, c'est un petit peu particulier. Ça ne se passe pas toujours comme ça dans les salles de montage. En
général,
on ne s'engueule pas.
Voilà.
Là, on est dans un cas particulier d'un couple cinéaste qui sont aussi couple dans la vie, qui montent des films ensemble depuis 30 ans et qui ont l'habitude de se confronter très fort pour que la chose advienne. À ce propos, j'aimerais citer quelques phrases de Straub dans ce film, qu'on entend, on l'entend soliloquer tout seul dans la salle de montage, et il dit « La liberté, c'est comme la liberté d'un musicien. Elle vient quand il domine parfaitement sa mécanique. Il n'y a pas de liberté dans le vague. Les choses n'existent que lorsqu'elles ont trouvé un rythme, une forme. L'âme naît de la forme du corps. D'abord, il y a l'idée, puis la matière, puis la forme. Il y a une forme qui nous résiste. On ne peut pas couper n'importe où. De la lutte entre l'idée et la matière sort la forme. La psychologie est entre les plans, dans la façon dont les plans s'enchaînent. » Voilà, quelques mots sur ce travail de recherche de l'idée à travers cette forme qui parfois résiste, dont Emmanuel donne un éclairage plus bienveillant, plus tendre, mais elle est elle aussi dans cette lutte avec la matière, comme elle le raconte dans son
en permanence
dans son ouvrage.
Emmanuel Léger, je voudrais qu'on reste sur cette idée de la forme et du montage. On a aussi le sentiment à vous lire que les plans se donnent un peu, comme des, ils s'offrent, un peu comme des amants. Il y a à la fois le plan, il y a ce que le plan montre, il y a le corps de l'acteur. C'est un peu là, là aussi l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire on monte aussi en fonction de, du corps de l'acteur et de ce que le plan nous dit, on peut le dire comme ça.
Oui, oui, bien sûr. Moi, ça m'a, cet extrait m'a fait penser à un texte dans mon livre qui s'appelle « Pour l'amour d'un regard », où je parle justement que je suis en train de chercher le, point, le bon point d'entrée dans le plan. Dans un, c'est une, la comédienne est dans un taxi, le personnage, c'est un personnage féminin dans un taxi. Et c'est un moment de tension dans le film où elle est voilà, préoccupée par plein de choses. Et je cherche dans son regard, en fait, dans ses yeux, le moment qui exprime le mieux cette tension dans laquelle elle est. Et donc je me sens dans un face-à-face en fait avec elle, enfin avec elle,
un dialogue,
dans l'écran,
enfin,
ouais. Et puis voilà, à chercher sur, dans ses yeux, dans la manière dont ses expressions sont, c'est la manière qu'elle a de bouger. Je cherche vraiment ce qui va pouvoir exprimer le mieux l'état du personnage. Donc nous, c'est vrai qu'on construit en fiction, enfin mon documentaire, on construit des personnages en fait. Hein, et ça se construit plan après plan, séquence après séquence. Et ça se tisse dans des, beaucoup dans l'indicible en fait, c'est pas tellement dans, le, dans les mots que dans la manière en effet de bouger, d'une lumière et, et de la durée du plan.
Emmanuel G, dans le travail de montage, il y a ce point toujours un peu mystérieux qui est que vous montez le film de quelqu'un d'autre, d'un réalisateur. On a le sentiment, pour le dire un peu en une formule, que le réalisateur vous propose des phrases qui sont les plans et que vous, monteuse, vous essayez de trouver le sens. C'est-à-dire qu'il faut voilà, essayer de mettre tout ça en mots visuels. Mais est-ce que c'est compliqué ce travail avec un réalisateur qui, lui, a fait le film ?
Alors moi, c'est ce que j'adore dans mon métier, c'est de justement rentrer dans le désir de quelqu'un d'autre. Et je m'appuie beaucoup sur ce que la personne me dit, c'est-à-dire sur les intentions du réalisateur. C'est très important, ça me guide. Et souvent, j'essaye, quand il y a un problème, par exemple, enfin, j'essaie de faire coïncider ce que j'ai, la matière que j'ai, c'est-à-dire que j'essaie de faire le meilleur film possible avec les rushs, mais en allant toujours dans le sens du désir du réalisateur et de ce qu'il a voulu faire. Sinon, on pourrait faire plusieurs films à partir des mêmes rushs. Mais pour moi, c'est pas possible, en fait, parce qu'on fait toujours le film du réalisateur. Et lui, au fond, même quand il est le plus perdu, il sait ce qu'il veut. Alors, il est parfois pas connecté à ça. Il a oublié, ou il ne sait plus, ou il doute. Mais on peut toujours aller chercher chez lui, donc, en discutant pourquoi il a fait ça, pourquoi il a tourné ça. Donc, revenir à ses intentions. Et tout ce chemin qui est d'accompagner le réalisateur et de faire naître le film, c'est quelque chose, oui, qui est très important. Pour moi.
Avril Dunoyer, donc c'est possible d'avoir un accord entre un réalisateur et son monteur, d'arriver
oui,
à faire un film apparemment.
Voilà, il n'y aurait jamais pas de salle de cinéma, tout ça n'existerait pas du tout. Oui, bien sûr, ils réussissent toujours à s'accorder, surtout que les monteurs comme Emmanuel G savent se mettre dans cette bonne posture, qui est une posture d'humilité, d'écoute, ce qui lui va très très bien, mais aussi de jouissance. Une posture de plaisir, de découverte des plans, où il y a une exultation d'avoir cette liberté que le réalisateur n'a plus par rapport à des plans que l'on découvre pour la première fois. Elle en parle très bien, elle écrit par exemple « J'attaque le montage, les plans se disputent l'honneur de me séduire ». C'est-à-dire que plonger dans un montage, c'est une rencontre, c'est tomber en amour avec un film et rester avec ce corps-là qui est un corps nouveau. Et donc à la fois, elle se place effectivement dans les pas du réalisateur pour suivre son intention et en même temps, elle a ce regard neuf qui permet justement de prendre le relais et de permettre au film d'exister après cette grande bagarre qu'est le tournage, qui laisse souvent les réalisateurs exténués. Ils ont vraiment besoin à ce moment-là d'un relais, d'un soutien pour permettre au film
de s'achever dans un autre lieu. Merci beaucoup à toutes les deux. Cette émission s'achève. Emmanuel G, Avril Dunoyer, je vous remercie encore beaucoup pour votre présence. Je rappelle le titre de l'ouvrage d'Emmanuel G, Plus long, le chat dans la brume, journal d'une monteuse. C'est paru aux éditions Adespot en 2016. On le trouve dans les bonnes librairies et en ligne. On peut le commander directement en ligne sur le site des éditions Adespot. Merci à Emmanuel Demisco à la technique. On se retrouve dans 15 jours pour une émission différente. Vous verrez, sur un tout autre sujet. À très bientôt.